Bonjour à tous. Alors que Bachar al-Assad reprend peu à peu le contrôle de la Syrie, retour ce dimanche sur son oncle Rifat al-Assad, un homme dont on parle peu, qui a longtemps été protégé par la France, mais dont l'origine de la fortune pose problème. Benoît Colomba avait enquêté sur lui en septembre dernier. Il va nous raconter à nouveau ce qu'il avait découvert. Et puis nous réentendrons le journaliste Jean-Marie Ponto. Lui a récemment publié « Sous les jupes de la République », un livre qui raconte comment, au fil des années, le pouvoir a utilisé des prostituées pour espionner de hautes personnalités.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Je suis personnellement prêt à prendre la responsabilité de rentrer en Syrie, à la fois pour rassurer les minorités et pour apaiser les cœurs. Et ensuite, eh bien, je partirai. Je m'engage à quitter le pouvoir. Je souhaite par ailleurs que la France accueille Bachar al-Assad, ce qui serait une véritable solution pour sortir de la crise.
Alors la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Rifat al-Assad, l'oncle du président syrien Bachar al-Assad, qui s'exprime en novembre 2011 au micro de nos confrères d'Europe 1. À l'époque, il tente, vous l'avez entendu, d'apparaître comme un recours à l'actuel pouvoir syrien. Seulement, on va voir que le vent a bien tourné, puisque la justice française enquête désormais sur l'origine de sa fortune, 160 millions d'euros et un patrimoine immobilier colossal. Alors, peut-être pour bien comprendre de qui on parle, Benoît, il faut peut-être tout simplement d'abord revenir sur le parcours de Rifat al-Assad.
Oui, l'histoire de Rifat al-Assad est indissociable de celle de son frère, Hafez al-Assad, qui a dirigé la Syrie jusqu'à sa mort en 2000. Aux côtés de son frère, Rifat al-Assad, c'est l'homme à poigne du régime. Il est à la tête d'une brigade spéciale chargée de réprimer toute contestation, explique le spécialiste du Proche-Orient, Fabrice Balanche.
Il va participer à la répression contre les frères musulmans. Lorsque son frère, en 1980, échappe à un attentat, il va envoyer ses hommes massacrer des prisonniers dans les prisons de Palmyre. Ça va faire près de 2000 morts. Ensuite, il va être la cheville ouvrière de la répression à Hama, à la ville qui s'était soulevée en 1982 contre le régime, soulevée par les frères musulmans. Alors là, on ne sait pas exactement combien de morts, mais entre 10 et 40 000. Donc c'est quelqu'un qui est un homme à poigne, mais qui en même temps va développer l'image d'un type droit, pas corrompu, pour présenter une espèce d'alternative éventuelle à Hafez al-Assad, qui a quelques soucis de santé.
Et je précise que Rifat al-Assad conteste, lui, avoir dirigé ces fameuses brigades de défense en expliquant qu'il était simplement leur chef spirituel.
Enfin, ce qu'on entend quand même aussi, Benoît, là derrière, c'est que Rifat al-Assad a été d'abord au service de son frère, une association qui ne va pas durer.
Effectivement, parce qu'au fil du temps, leur relation se dégrade, l'attrait du pouvoir est le plus fort. Rifat al-Assad tentera finalement de renverser son frère, mais son coup de force est un fiasco. Il doit donc quitter la Syrie en 1984, direction la Russie, puis la France, où Rifat al-Assad est accueilli à bras ouverts, se souvient l'ancien ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas.
Dans cette époque, effectivement, la famille al-Assad était assez voisine et proche des dirigeants français. Toute cette famille avait des relations de premier plan, et notamment avec le président de la République, François Mitterrand, a fait remettre Rifat. Il a fait remettre des décorations, la Légion d'honneur, très haut grade. Donc, ces relations-là étaient très imbriquées.
Oui, très imbriquées, dit Roland Dumas. Avec donc une Légion d'honneur à la clé, c'était quand ça?
Le 28 février 1986, précisément, Rifat al-Assad est fait grand croix de la Légion d'honneur par le président Mitterrand. Et ce n'est pas tout. Il est également invité à des chasses présidentielles, comme le montre ce courrier retrouvé par les enquêteurs lors d'une perquisition, une lettre rédigée en décembre 88 par le responsable des chasses présidentielles, François de Grossouvre, l'homme de l'ombre de l'Élysée. Voilà ce qu'il écrit à Rifat al-Assad.
Monseigneur, le président de la République m'a confié le soin d'organiser en votre honneur une chasse à Rambouillet le vendredi 20 janvier 1989. Je vous accueillerai en tant que représentant du président de la République à 9h30 au château de Rambouillet. Des battues de faisans et de canards se dérouleront de 10h à 13h, suivies d'un déjeuner.
Oui, des battues de faisans et de canards. La France est vraiment effectivement aux petits soins avec lui. Et d'ailleurs, pour s'assurer que rien de fâcheux ne lui arrive, Benoît, le pouvoir s'appuie aussi sur les services secrets français.
Oui, et pour s'en rendre compte, il faut aller dans la commune de Bessancourt, dans le Val d'Oise. C'est là que Rifat Al-Assad s'est installé, dans un château au début des années 80, avec sa garde rapprochée. Mais pas question de mettre son nez dans ses affaires, c'est ce que comprend très vite le maire de la commune, Jean-Christophe Poulet. Après son élection en 2001, deux policiers viennent tout de suite le voir avec un message bien précis.
Assez rapidement, en fait, on ne parle pas de la situation de Bessancourt en général, on parle de la situation des Syriens, en disant que ça s'était toujours bien passé sous la mairie précédente, on pouvait les considérer comme des partenaires, et que si j'avais le moindre problème, moindre doute, il fallait que je contacte les renseignements généraux avant d'intervenir en direct.
Ça voulait dire quoi? Comment vous interprétez ce message?
Moi, je l'ai interprété directement comme un message de mise en garde.
On le met en garde, on lui demande en tout cas de ne pas prendre d'initiative personnelle, hein, c'est ce qu'on comprend. Mais comment expliquer cette bienveillance dont semble alors bénéficier Rifat Al-Assad?
Alors, il y a des raisons politiques et même géopolitiques. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Dans les années 80, la France est visée par de nombreux attentats au Liban. L'ambassadeur de France est même tué dans un attentat à Beyrouth en septembre 81. Et les services français soupçonnent alors le régime syrien. Ils décident donc de faire passer le message à Rifat Al-Assad. Il faut que ces attentats s'arrêtent. Une rencontre est organisée à l'été 83 près de Genève. L'ancien chef du service de renseignement de la DGSE, Alain Chouet, était là.
On a été bras dessus, voir Rifat Al-Assad pour lui poser la question. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Et comment peut-on discuter de ça? Autrement qu'en se lançant des bombes ou en faisant péter des voitures ou en assassinant des diplomates. Avec la menace implicite que bon, on va pas courir tout le temps après les petites mains, puisque c'est vous le chef, et ben on va en tirer les conclusions, et si ça continue, ben on en tirera les conclusions directement à votre égard. Il a immédiatement compris d'ailleurs, il était tout content d'avoir cette espèce de signe de reconnaissance de son existence par un service occidental, et on a très vite pu mettre en place ce qu'on baptise pompeusement un téléphone rouge entre nous, notre structure et lui.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les attentats se sont arrêtés?
Absolument. Avant de frapper, ses services et lui-même nous préviendraient que quelque chose ne marchait pas dans la relation franco-syrienne.
Ah oui, donc une sorte de deal est conclu avec Rifat Al-Assad, plus d'attentats, et en échange on vous laisse tranquille.
C'est ça, d'autant plus que Rifat Al-Assad peut donner également un coup de pouce dans certains gros contrats de matériel militaire, comme cette vente d'hélicoptères à l'Arabie Saoudite à l'été 88. Voilà ce que lui écrit à l'époque Jean-Claude Sempérac, le patron de la Sofresa, c'est-à-dire la société chargée d'exporter l'armement français en Arabie Saoudite.
Excellence, ainsi que vous le savez, le contrat d'hélicoptère pour l'Arabie Saoudite, dont nous avions parlé lors de notre dernier entretien, a été signé il y a quelques semaines. Je tiens à vous remercier de l'aide que vous avez pu apporter à la France dans la conclusion de cette opération qui va resserrer les liens qui la lient à la nation arabe.
Oui, donc Rifat Al-Assad est aussi précieux pour faire avancer certains contrats. Oui, on comprend effectivement mieux pourquoi la France l'a longtemps choyé.
Il y a une sorte de donnant-donnant, et à en croire l'ancien responsable du renseignement français, Alain Chouet, chacun y trouvait son compte.
Soit il donnait des informations, soit surtout et plutôt il nous faisait bénéficier de son carnet d'adresses qui était tout de même important dans l'ensemble du monde arabe et même dans le tiers-monde. Hein. Bon, en échange de quoi, effectivement, il a eu droit à un certain nombre de protections. On n'avait évidemment, nous, aucun intérêt en tant que service à lui faire des misères, et au contraire, on préférait le mettre à l'abri d'un certain nombre de choses. Après, nous, on ne prend pas de décision au niveau des services, c'est une décision qui a été couverte par le politique, par l'exécutif, par la présidence de la République, le Premier ministre, qui ont donné leur aval à ce type de politique.
Ouais, c'est clair, on ne touche pas à Rifat Al-Assad. Et visiblement d'ailleurs, cette protection offerte par l'État, elle va durer un bon moment.
Et encore une fois, il y a un moyen très simple de le vérifier en allant autour du château de Rifat Al-Assad. Mmh. Écoutez comment l'actuel maire de Bessancourt a dû batailler ferme pour simplement reprendre le contrôle d'un chemin municipal. Alors là, où est-ce qu'on est là?
Donc là, c'est le portail d'entrée. Et puis au bout de l'allée, il y a l'entrée du château. Une grosse caméra de vidéosurveillance devant nous, là, vous voyez. C'est un chemin qui est relié au parcours pédestre du Val d'Oise, en fait. Les joggeurs passent par là, voilà, c'est un lieu de promenade et de loisirs. Enfin, ça en est redevenu, hein, parce que longtemps, là, on ne pouvait plus fréquenter, puisqu'il y avait des gardiens à l'entrée qui nous interdisaient d'entrer. Nous, la mairie, on a reconquis ce domaine on va dire quasiment mètre par mètre, hein, parce que on leur a demandé de dégager les épaves de voitures qui bloquaient l'entrée. Après, on leur a demandé d'enlever les soldats en armes qui étaient au milieu, enfin les anciens militaires qui étaient au milieu. Après, on leur a demandé que les chiens ne soient plus errants, de dégager le passage. Et puis, petit à petit, on a repris le domaine public à notre charge, quoi.
Ah oui, il a vraiment fallu se battre, hein, pour récupérer l'usage de ce chemin, avec en face d'ailleurs des personnes qui apparemment n'étaient pas vraiment, si on l'entend bien, des enfants de cœur.
Bah, disons qu'autour de ce chemin, il y avait quand même des hommes qui ont longtemps braconné à l'arme de guerre, ouais, et il a fallu que la mairie porte plainte avec l'aide des chasseurs du coin pour que ces pratiques s'arrêtent.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors, on a vu comment Rifat al-Assad est devenu un intermédiaire incontournable pour la France, comment il a été longtemps protégé. On va s'intéresser maintenant, Benoît Colomba, à son patrimoine immobilier, parce que plusieurs associations s'interrogent sur l'origine de son financement.
Oui, les associations Sherpa et Transparency International, elles soupçonnent Rifat al-Assad d'avoir détourné de l'argent public syrien. Une information judiciaire a été ouverte en avril 2014.
Mais qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce patrimoine ?
Il est considérable, hein. Il est estimé à plus de 90 millions d'euros. Rifat al-Assad possède notamment deux luxueux hôtels particuliers, ainsi qu'une quarantaine d'appartements dans les beaux quartiers de Paris. Il est encore propriétaire de deux terrains, sans oublier 7300 mètres carrés de bureaux à Lyon.
Et ce fameux château de Bessancourt aussi, où on s'est rendu tout à l'heure.
Oui, et ce château, les enquêteurs s'y sont intéressés de très près. Ils ont découvert des choses plutôt étranges, parce que avant d'être occupé par Rifat al-Assad, ce château appartenait en fait à des Saoudiens. Et lorsqu'au début des années 80, ces Saoudiens ont voulu agrandir ce château, ça s'est fait d'une façon assez étonnante. Ils ont versé de l'argent à la commune pour mieux faire passer leur permis de construire. Et c'est ce qu'a reconnu un ancien élu sur procès verbal le 23 mai 2016. Ses propos sont lus par un journaliste.
Le maire de l'époque a voulu monnayer la chose et on a dit « Ok, vous aurez votre permis si vous faites un don à la commune ». Ils ont fait un don à la commune qui a permis de financer la construction d'un gymnase pour les arts martiaux, ce qui a été fait. Je crois que le don était de 2 millions de francs. L'opposition aurait pu dire quelque chose, mais il y a eu des consignes de l'Élysée pour taire ces faits. Donc ils ont construit le château, que j'ai visité, c'était magnifique. Tout en marbre, c'était la grande vie à l'époque. Il y avait plein de pognon, tennis, piscine, et ainsi de suite.
Et ce château magnifique, les Saoudiens l'ont donc cédé à Rifat al-Assad.
Ouais, donc la vie de château, hein, pour Rifat al-Assad, et une vie d'autant plus tranquille d'ailleurs, que lui, de son côté, veille à ce que tout se passe bien avec les élus locaux.
Effectivement, selon certains témoins, Rifat al-Assad aurait donné également de l'argent à la commune, par le biais d'associations locales, mais d'une façon plutôt inhabituel, Patrick Planche en a été le témoin. Dans les années 80, il était directeur de la Maison des Jeunes et de la Culture à Bessancourt et il se souvient parfaitement du généreux donateur Rifat al-Assad qui faisait des chèques que le maire pouvait ensuite donner aux associations de son choix.
Un jour, le maire me dit « on a un don ». Donc il faudrait venir en mairie, un chèque, alors que je me suis aperçu qu'il était en blanc. On devait être dans les 3-4 000 euros, quoi, mais on n'était pas en euros à l'époque. Mais... Donc le maire de l'époque me dit il faudrait faire une petite lettre de remerciement. A priori, c'était voilà, une pratique fréquente d'aider la vie associative à travers un don sans sollicitation particulière. D'habitude, on faisait des grands dossiers de demande de subvention qui n'étaient pas forcément honorés. Là, on demandait rien, on nous donnait des sous. Donc on les a pris.
Oui, on les a pris. Et ce que vont découvrir les enquêteurs, Benoît, c'est que cet argent, eh bien, il n'est pas donné qu'aux associations locales.
Il en circule également beaucoup autour du château parce que Rifat al-Assad n'est pas tout seul. Il y a des personnes à son service venues de Syrie. 400 personnes débarquent dans les années 80. Il y en aurait aujourd'hui entre 60 et 70. Des soutiens du personnel logé dans des bâtiments sur une quinzaine d'hectares autour du château. Comme j'ai pu le constater sur place avec le maire de Bessancourt, Jean-Christophe Poulet.
On est sur le chemin communal. À notre gauche, il y a le château de Rifat al-Assad. Et à notre droite, il y a les logements où sont abrités son personnel. Et donc, c'était d'anciennes écuries qui ont été cloisonnées, qui ont été réaménagées, enfin plus ou moins réaménagées. Ça, vous voyez là, les toitures. Donc, c'est beaucoup de choses qui ont été surélevées. On ne s'en jamais permis de construire, bien entendu. Enfin, sans jamais de respect des règles d'urbanisme. Et à chaque fois qu'on a mis notre nez sur des questions d'insalubrité ou de permis de construire, on a toujours été un peu retoqué par l'État en nous disant que c'était un peu un statut spécial ici, puisque il y avait un accord avec Rifat et l'Assad et qu'il ne fallait pas qu'on s'en mêle.
Et dans ces conditions, donc, Benoît, évidemment, difficile de savoir ce qui se passe vraiment sur place. Cela dit, certains travailleurs sociaux ont tout de même fini par se poser des questions.
Et notamment le directeur du Centre communal d'action sociale de Bessancourt, Élie Domergue, il raconte ce qu'il a vu sur le terrain.
Une humidité très forte, très prégnante sur les murs, de la moisissure. Tous ces éléments avaient pu être mis en cause dans l'apparition de problématiques de santé sous les enfants en bas âge. J'avais d'ailleurs, pour l'une de ces familles, été interpellé par le médecin traitant, qui avait été le premier à attirer mon attention sur l'état d'hébergement désastreux dans lequel pouvaient se retrouver certaines familles. Des problématiques en termes d'asthme, des toux récurrentes. C'est d'ailleurs dans ce contexte-là que nous avions mis en place un relogement.
C'est terrible hein, ce qu'on entend là, mais personne ne s'est jamais plaint de vivre dans des conditions pareilles.
Alors le problème, c'est que les soutiens ou les employés de Rifat al-Assad ne parlent pas, surtout depuis que l'enquête judiciaire s'est accélérée. Mais nous avons réussi à rencontrer l'un d'entre eux qui tient à rester anonyme. C'est un ancien militaire qui a vécu 25 ans autour du château avec sa famille. Nous avons fait lire son témoignage.
Je faisais un peu tout pour Rifat al-Assad, ses quatre femmes et ses enfants. On pouvait m'appeler à n'importe quel moment, à 2h ou à 4h du matin pour aller les chercher à l'aéroport, les emmener chez le coiffeur, au restaurant, en discothèque ou en balade sur les Champs-Élysées. Parfois, je dormais dans la voiture. On me donnait entre 400 et 1500 euros en espèces par mois. Mais parfois, je ne touchais rien pendant 3 mois et je devais faire le plein d'essence. Tout était compliqué, se loger, se nourrir, se soigner. Je ne pouvais pas m'arrêter, même quand j'étais malade. Je n'avais pas le choix.
Et précisons qu'à cela, l'entourage de Rifat al-Assad répond qu'il s'agit, je cite, de conditions de vie certes modestes, mais parfaitement convenables.
Ouais, chacun se fera son idée. En tout cas, ce qu'on entend aussi là-dedans, Benoît, c'est qu'il y avait apparemment de l'argent liquide qui circulait.
Alors, selon un ancien responsable du personnel de Rifat al-Assad, entendu par les enquêteurs, 200 000 euros auraient ainsi été retirés chaque mois en espèces. En tout cas, l'enquête a montré qu'entre 80 000 et 120 000 euros étaient régulièrement retirés sur le compte de l'une des épouses de Rifat al-Assad. Des paiements en espèces qui, selon les investigations, auraient duré jusqu'en novembre 2010, avant d'être effectués par virement.
Mais cet argent, il venait d'où ?
Alors, c'est toute la question. Rifat al-Assad affirme, lui, qu'il n'avait pas d'argent quand il est arrivé en France et que c'est grâce au soutien de la famille royale saoudienne qu'il a pu acheter tous ses biens. Une thèse qui ne semble pas convaincre les enquêteurs.
Oui, ce d'autant moins que toutes ces acquisitions immobilières, Benoît, elles se sont faites avec des montages assez étonnants.
Oui, aucun achat n'est effectué au nom de Rifat al-Assad, mais au nom de proches ou de sociétés dont l'oncle de Bachar al-Assad est le bénéficiaire, avec à chaque fois un recours à des sociétés offshore, comme l'ont constaté les enquêteurs dans ce document de synthèse.
La volonté de dissimulation de Rifat al-Assad relative à son patrimoine est caractérisée. Il a constitué des sociétés dans des paradis fiscaux en vue d'acquérir son patrimoine. Ces sociétés ont été créées sur l'île de Curaçao dans la mer des Caraïbes, au Liechtenstein et au Panama. En 2006, les sociétés du Liechtenstein auraient été transférées au Luxembourg. Il a également créé des sociétés qui disposent de comptes à Gibraltar.
Ah oui, il aurait donc de l'argent dans des paradis fiscaux. Bon, maintenant, il reste à comprendre d'où il vient cet argent. Et pour cela, Benoît, les enquêteurs disposent de plusieurs témoignages.
Des témoignages d'anciens dignitaires du régime syrien et parmi eux, notamment, celui de l'ex-ministre de la Défense, Mustafa Atlas. Écoutez ce qu'il disait aux enquêteurs le 13 juin 2016. Son témoignage est lu par un journaliste.
Quand Rifat al-Assad est parti en 1984, il a vidé la banque centrale, ce qui représentait 860 millions de livres syriennes. Il a pris les palettes de billets et les a converties en dollars au marché noir entre la Syrie et le Liban, mais il n'a pas pris l'or.
Ah oui, selon ce témoignage, il aurait donc emporté une partie de l'argent de l'État syrien. Et Rifat al-Assad, qu'est-ce qu'il répond à ça, lui ?
Alors, ses avocats, de leur côté, jugent ces témoignages d'anciens rivaux politiques infondés et ridicules. Quant au fils de Rifat al-Assad, Siwar, il affirme qu'il n'a rien à cacher.
Nous sommes tout à fait transparents quant à la provenance des fonds. Il y a quand même 30 ans qui sont passés où personne ne s'est posé la question d'où venait cette fortune. Et 30 ans plus tard, on nous pose des questions. Comment on a pu acquérir des biens 30 ans auparavant? Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous gardez les factures ou les preuves de virement d'il y a 30 ans?
Voilà pour le fils. Quant à son père, Rifat Al-Assad, entendu à plusieurs reprises par le juge Renaud Van Ruynbeck, il ne se souvient de rien. Cet extrait d'un PV d'audition est lu par des journalistes.
En vérité, je ne sais pas ce que je possède. Je suis très absent de cette vie.
Vous ne vivez pas dans la rue. Vous avez un train de vie élevé. Connaissez-vous le patrimoine et les revenus dont vous bénéficiez?
Oh, je ne connais pas tout le patrimoine que je possède. Je percevais des salaires avant, mais maintenant, je ne sais pas.
Vous ne savez pas de quoi vous vivez?
Je ne sais pas exactement d'où ça vient.
Contestez-vous avoir une fortune?
Je vous jure, je ne possède rien du tout. Je n'ai aucune connaissance de ma fortune. Peut-être même que je possède des choses sans que je le sache.
Quelle est l'origine de votre fortune? Quelle est son étendue?
Je n'ai rien à moi. Non seulement je ne possède rien, mais je refuse de posséder quoi que ce soit. J'ai horreur de la propriété. Tout l'argent que j'ai reçu, ce n'est pas moi qui l'ai eu entre les mains. Je ne sais pas ce que les gens en ont fait. Quand je recevais un chèque, je leur donnais. Je leur demandais de donner aux pauvres.
Bon, et cette version, les enquêteurs, eux, ils en pensent quoi?
Elle les laisse sceptiques. Pour eux, Rifat Al-Assad se comporte comme le véritable propriétaire de ses biens, comme le montrent d'ailleurs certaines écoutes téléphoniques. Et c'est pour ça qu'en juin 2016, Rifat Al-Assad a été mis en examen pour blanchiment, bande organisée de fraude fiscale, détournement de fonds publics et travail dissimulé.
Et ça ne s'arrête pas là, Benoît, puisque, et c'est ce que vous nous révélez d'ailleurs, la justice française soupçonne aussi maintenant Rifat Al-Assad d'avoir détourné une partie du patrimoine archéologique de son pays.
Oui, c'est un avocat syrien qui a porté cette accusation auprès de la justice française. Son grand-père était le maire d'un village dans lequel Rifat Al-Assad aurait lancé des travaux en 1975 pour construire un aéroport militaire. Et voilà ce qu'auraient découvert les ouvriers du chantier en déplaçant, à l'époque, un énorme rocher. C'est l'avocat du plaignant syrien Joseph Bayam qui raconte la scène.
Sous ce rocher, les ouvriers découvrent un trésor archéologique romain absolument sublime avec des statues d'hommes, de femmes, de chevaux à taille réelle en or, avec des pièces d'or, avec enfin, tout ce que l'on peut imaginer dans ce type de trésor. Tout de suite, tout le chantier est bloqué et dans les heures qui suivent, débarque Rifat Al-Assad en hélicoptère et qui s'approprie l'intégralité du trésor. D'abord les pièces principales en hélicoptère, et puis par la suite, dans les jours qui viennent, un convoi de camions vient, vide entièrement le trésor, que l'on ne reverra jamais. Tous les Syriens se sont vus spoliés d'une part plus ou moins importante de leur patrimoine.
Mais attendez, Benoît, ça veut dire, si je comprends bien, que ce serait un trafic d'antiquités qui aurait pu alimenter la cagnotte de Rifat Al-Assad?
C'est en tout cas ce que tentent de vérifier les enquêteurs. Une simple hypothèse à ce stade, mais qui n'étonne pas vraiment le spécialiste du Moyen-Orient, Fabrice Balanche.
Un ami archéologue qui faisait de la prospection archéologique m'a raconté ça, c'est-à-dire lorsqu'il passait dans les villages, il demandait s'il n'y avait pas des inscriptions en grec, en latin, etc. pour essayer de repérer des sites. En fait, les gens ne répondaient pas, les gens avaient peur qu'il soit un envoyé de Rifat, parce que les hommes de Rifat justement traquaient ces signes de présence de sites archéologiques pour ensuite aller les dégager, non pas à la petite cuillère, mais au bulldozer, pour mettre à jour des trésors et ensuite pouvoir les vendre.
Des accusations de trafic d'antiquités qualifiées de fantaisistes par l'entourage de Rifat Al-Assad.
Ce qui n'empêche pas, cela dit, l'enquête, elle, de se poursuivre et même de s'élargir.
Oui, à toute l'Europe, en Espagne d'abord, où des perquisitions ont eu lieu dans la station balnéaire de Marbella. Là aussi, Rifat Al-Assad dispose d'un patrimoine impressionnant, évalué à plus de 600 millions d'euros. Investigation également en Angleterre, autour d'une luxueuse propriété londonienne. Une accélération dans l'enquête saluée par l'avocate de l'association Sherpa, Marie Dosé.
Enfin, on met en exergue des opérations de blanchiment qui ont été réalisées par un personnage aussi sulfureux que Rifat Al-Assad, mais en toute complicité avec les autorités françaises. Parce que quelque part, ils étaient au courant, 84-88, en 86, il reçoit la Légion d'honneur, on sait qu'il est protégé par les services, et ce patrimoine immobilier qu'il a pu acquérir sur 4 années l'a été en toute connaissance de cause. La France est terre d'accueil de ce type de blanchiment dans les années 80. C'est pas seulement une instruction qui concerne Rifat Al-Assad, c'est aussi une instruction qui concerne la façon dont les autorités françaises acceptent, valident et permettent ces opérations de blanchiment.
Et selon nos informations, les dernières investigations du juge Van Rijnbeeck concernent Guernesey et Gibraltar, qui auraient été utilisés par Rifat al-Assad dans ses complexes montages financiers.
Oui, il reste encore des fils à tirer hein, et bien des questions sans réponse. Merci en attendant Benoît Colomba. Je précise qu'on peut retrouver votre enquête sur franceinter.fr et sur la page Facebook de Secret d'Info, mais surtout restez avec nous, puisque dans quelques instants, avec notre invité, on va soulever les jupes de la République. De circonstance pour les vacances, un air latino, un chant syncopé, c'était Wide Awake, bien réveillé comme on dit en français, un titre du groupe américain Parquet Courts.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant Jean-Marie Ponto, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez chez Taillandier Les Jupes sous les jupes de la République. C'est un livre qui nous montre comment, finalement, dans l'histoire contemporaine, le pouvoir s'est accommodé, a utilisé, d'ailleurs instrumentalisé, des prostituées. Alors pour le comprendre, on va peut-être commencer avec celle qu'on a appelée Madame Billy. C'était qui, Madame Billy ?
Madame Billy, c'est une très vieille institution, c'est une institution de la 4e République. C'était un hôtel particulier, un bordel, qui était à Paris, rue Paul Valéry, dans le 16e. C'était facile à retrouver, parce qu'il était juste en face d'Interpol, du siège de la police internationale. Madame Billy avait beaucoup, elle avait elle-même fait travailler dans les bordels anciens, et puis elle avait réussi, après-guerre, après la loi Martrichard, qui interdisait théoriquement les bordels, à continuer à exister et à recevoir des gens, parce qu'elle le pouvoir la soutenait, la pouvoir la protéger, et ça permettait...
Vous dites qu'elle recevait jusqu'à 7 parlementaires par soir.
Oui, elle disait qu'elle était très spécialisée dans les parlementaires, en particulier apparemment au Sénat, dans les vieux parlementaires. On dit que c'est De Gaulle qui a demandé à ses ministres de plus y aller. Madame De Gaulle étant intervenue aussi également. Mais il y avait une clientèle internationale, parce qu'elle raconte qu'un jour, les policiers lui ont amené un petit homme encadré par eux, par des forces assez importantes. Ils lui ont dit, on vient le chercher dans une demi-heure. Il est il est resté une heure et demie, les policiers sont revenus et ils ont dit « Où est le chat ?» Et elle a dit « Quel chat ?» Ils lui ont dit « Mais c'est le chat d'Iran qui était... » Elle ne savait pas que c'était le chat d'Iran qu'on a récupéré. Alors c'est sûr que ça permettait des relations internationales détendues, ça permettait aussi pour des hommes d'affaires, des fois quand ils avaient un invité étranger pour signer un contrat, de l'amener là, et puis ça permettait d'avoir des informations sur les hommes politiques. Mais Madame Billy, c'est l'ancienne mode, si vous voulez, c'est le bordel à la...
Après, il y a Madame Claude, mais il se passe la même chose, parce que vous citez la société Schneider qui doit négocier un gros contrat avec le président indonésien, et là, la DST va demander à Madame Claude de lui trouver des filles pour aider aux négociations. Donc c'est le même système.
C'est le même système. Alors Claude, c'est un peu plus sophistiqué, c'est plus moderne. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas dans le bordel ancien avec des grands salons et puis avec les filles qui défilent. Là, c'est des mises en contact. C'est-à-dire qu'elle a une clientèle, on lui demande, elle a des filles qui vont, qui a des rendez-vous. C'est une call girl, quoi. C'est l'invention de la call girl. Et c'est vrai que ça a servi à beaucoup de contrats. Il y avait même, je me souviens, quelqu'un qui m'a raconté qu'il y a un chef d'entreprise qui est arrivé en France, qui avait étranger, qui avait envoyé un téléx en disant « Je veux une blonde et une brune de chez Claude ». Donc, ils ont fait ça. Et Claude avait un vrai réseau important.
Et Madame Claude était sur écoute. Les renseignements généraux pouvaient écouter les politiques qui étaient en contact avec elle, du coup.
Oui, elle était sur écoute et elle était aussi collaboratrice. C'est-à-dire qu'elle allait, je crois, une fois par semaine ou tous les 15 jours à la moyenne mondaine où elle racontait ce qui s'était passé.
Il y avait un débriefing.
Et puis il y avait même, ça allait même plus loin, puisque je raconte l'anecdote que m'a raconté un commissaire de police, un jeune commissaire qui a été une fois et puis qui a trouvé ça bien, donc il est resté. Et 3 jours après, il a été convoqué par le directeur de la police, qui était un personnage important, qui lui a donné la photocopie de sa carte de police en lui disant... Il y a des endroits, monsieur le commissaire, où on n'enlève pas son pantalon quand on est en fonction. C'est une erreur de jeunesse, mais ça veut dire que tous les papiers d'identité étaient photocopiés des gens au vestiaire et étaient ensuite adressés à la police.
Il y a une collusion et même une forme de corruption entre justement ces souteneuses et la police, puisque vous citez le cas d'une autre souteneuse qui est Katia Laroukine. Et là, vous racontez qu'elle fête son anniversaire chaque année, elle fait des cadeaux, mais des cadeaux énormes. Un briquet en or à la police, par exemple, ça s'appelle de la corruption.
Alors, Laroukine, c'est un cas encore particulier. Les gens qui sont restés après 46, c'est à chaque fois des personnages.
Mais on se rend compte qu'au fil du temps, c'est le même fonctionnement. Hein.
C'est le même fonctionnement.
Quand on en a besoin, on y va, voilà. On ferme les yeux, puis surtout, on obtient des renseignements qui peuvent servir contre des personnes ou pour prévenir des personnes, d'ailleurs.
Exactement. Laroukine, elle a été devenue en plus vraiment une indicatrice de police. C'est-à-dire qu'ils s'en servaient aussi pour des opérations de police, surtout quand il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la police. Elle allait sur les lieux, elle faisait des... Et effectivement, chaque année, elle fêtait son anniversaire, elle recevait les responsables de la brigade mondaine, et le plus jeune devait dire un compliment, il se trouve que celui-là m'a raconté, qui était le commissaire Aimé Blanc, et il a reçu un Dupont en or, et il disait que c'était l'un des plus petits cadeaux qu'elle faisait. Et elle est restée très très tard, elle était protégée par beaucoup de gens. Elle avait de nombreux amis, dont, c'est officiel puisqu'il en parle, Roland Dumas, qui la connaissait bien. Ils avaient une passion commune, c'était l'opéra. Ils passaient leur temps à aller ensemble dans des opéras à l'étranger, assister à des manifestations.
Et ce qui fait que finalement, la criminalité ne met pas la main sur ces établissements, c'est que leur protecteur, c'est la police et c'est le pouvoir.
Absolument. Ce que j'avais demandé à une, je lui ai dit, mais comment se fait que vous êtes pourquoi le milieu ne s'intéresse pas à vous, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et elle m'a dit, mais parce que la police nous protège. Alors, des fois, Claude faisait croire qu'elle était beaucoup plus protégée, probablement qu'elle l'était. Parce que quand elle est partie, il y a quelqu'un qui lui a succédé, c'est Madame Catherine. Et Madame Catherine, quand elle a dit au patron de la mondaine qu'il a arrêté, qu'il était protégé, il a piqué une crise. Donc, elle faisait croire aussi qu'elle était plus protégée. Elle était mythomane, Madame Claude. Mais en même temps, il est clair que le milieu n'approchait pas parce que c'était couvert par la police. C'est ce qu'on appelait un condé.
Ouais. Et alors ce système, il a pour but, on l'a dit tout à l'heure, de faire remonter des informations, et ces informations, elles arrivent jusqu'au ministre de l'Intérieur, sauf qu'il y a un ministre de l'Intérieur qui, quand il a découvert le système, ne l'a pas approuvé.
Oui, la mondaine faisait des fiches, et les fiches étaient envoyées au préfet de police, et le préfet de police faisait un dossier, et une fois par semaine, il allait en tête à tête voir le ministre de l'Intérieur pour lui donner le dossier, lui lire les fiches. Et puis, effectivement, en 1984, Pierre Joxe est nommé ministre l'intérieur pour la première fois, parce qu'il l'a été deux fois, et il découvre le système. Et il est très étonné parce qu'il a jamais. Il commence comme.
Ah, ce sont des fiches à caractère sexuel. Hein.
Alors c'est ça. Il y a des fiches DRG, des renseignements généraux.
Notes blanches classiques.
Ouais. Mais là, il y a des notes blanches que DRG qui s'appellent notes roses. Et il découvre le truc et il dit au préfet. Enfin, c'est incroyable votre chose. D'abord parce que c'est des majeurs, ils font ce qu'ils veulent. Et puis en plus de ça, il y a des choses qui sont fausses. Il y a beaucoup d'histoires d'homosexuels. Qu'est-ce que vous recherchez et surtout, moi, imaginez-vous que je trouve quelqu'un que je connais. Qu'est-ce que je fais? Je le préviens? Je le préviens pas? Donc vous allez arrêter ça tout de suite. Il l'arrête. Et Jox, qui est malicieux, que j'aime bien, dit, mais de temps en temps, quand même, il faisait des rapports, il faisait des notes blanches orales. C'est-à-dire, il m'expliquait quand même la façon dont les choses se passaient pour que je puisse être au courant. Et le degré d'information est considérable, hein, de remonter au ministère de l'Intérieur.
Alors, Pierre Jox a voulu supprimer ce système de fiches. Il a continué.
Bien sûr. Enfin, il n'a pas continué. Les notes blanches ont continué assez tard. Maintenant, elles sont supprimées. Mais le renseignement policier sur les affaires de mœurs continue. Mais surtout, il peut servir pour des choses dont je raconte une histoire assez récente. Sous le gouvernement Valls, qui est un ministre qui a déposé plainte un jour parce qu'il s'était fait voler sa carte bleue. Et donc, les policiers enquêtent, trouvent que la carte bleue a servi à payer des PV. On identifie le propriétaire de la voiture, qui est une jeune femme. Et on entend la jeune femme qui dit « Mais moi, j'étais sous la douche. Il était sous la douche, plutôt lui, pendant que je prenais les numéros de la carte. » Et donc, on a voulu retirer la plainte, c'était trop tard. La dame a été jugée très discrètement, mais le ministre a été écarté discrètement. Et Jean-Louis Debray me raconte que sur un directeur de cabinet qui fréquentait des lieux pas bien, il lui a donné 8 jours pour démissionner. Il lui a dit « Voilà, vous avez 8 jours, vous démissionnez pour raison personnelle, ou on raconte tout et on vous vire officiellement. Oui, » Il est parti tout de suite.
Donc ces informations ont des conséquences. Merci Jean-Marie Ponto. Je rappelle que votre livre « Sous les jupes de la République » est édité chez Taillandier. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Martin Broyer pour sa précieuse collaboration. Merci à Christophe Imbert, notre réalisateur. Merci à Jean-Baptiste Dibert qui assurait notre programmation musicale. Dans quelques instants, vous retrouverez Brigitte Patient pour Regardez voir. Elle recevra le photographe de mode Peter Lindberg. Et quant à moi, eh bien, au nom de la cellule investigation de Radio France, je vous souhaite un excellent dimanche après-midi.